RSR, Aude Markovic.
Stanislas Wawrinka rencontrera Roger Federer dimanche en huitième de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros. Les deux Suisses se sont défaits de leurs adversaires aujourd'hui. Stanislas Wawrinka a battu tout à l'heure le français Joe Wilfried Tsonga au terme d'un match en 5-7 très disputé qui a duré plus de 4 heures. Roger Federer a battu le serbe Janko Tipsarevic en 3-7, 6-1, 6-4, 6-3. Le gouvernement bernois veut organiser en 2013 une votation populaire sur la question jurassienne. Il va désormais entamer des négociations avec le canton du Jura pour définir les modalités d'un scrutin qui portera sur la création d'un nouveau canton formé du Jura et du Jura bernois avec Moutier pour capitale. Le président russe Dmitri Medvedev a annoncé aujourd'hui l'envoi d'un émissaire à Benghazi en Libye, après avoir offert à ses partenaires du G8 la médiation de son pays dans le conflit libyen lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet à Deauville. Les grandes puissances ont accentué aujourd'hui la pression sur Muammar Kadhafi en exigeant de nouveau son départ et en brandissant la menace d'une intensification des opérations militaires contre ses forces. Dans leur déclaration finale, les membres du G8 estiment que le dirigeant libyen a perdu toute légitimité et qu'il n'a aucun avenir. 2 ans après la catastrophe du vol Rio-Paris qui s'est abîmé en mer au large du Brésil, les enquêteurs français ont pu reconstituer les derniers instants de l'appareil. La chute de l'avion a duré 3 minutes et 30 secondes. Mais si le film des dernières minutes du vol a pu être reconstitué, il n'est pas encore en mesure d'établir les causes du drame. Ratko Mladic, l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, peut être transféré vers le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye pour répondre de génocide. C'est ce qu'a décidé aujourd'hui une juge serbe. Un rapport médical a établi que l'ex-général était physiquement apte à suivre l'audience, en dépit du fait qu'il souffre de plusieurs maladies chroniques. Les forces de sécurité syriennes ont ouvert le feu aujourd'hui contre plusieurs manifestations dans différents endroits du pays, tuant au moins 8 personnes selon des membres de l'opposition. Il y a eu 3 morts dans la banlieue de Damas et 4 dans un village dans le sud de la Syrie, ont précisé les comités de coordination locaux qui organisent le mouvement de protestation contre le régime du président Bachar el-Assad. Une autre personne a été tuée près de la frontière libanaise. Au Liban Sud, 6 casques bleus italiens ont été blessés, dont 2 grièvement aujourd'hui dans un attentat à la bombe contre leur convoi à l'entrée de la ville de Saïda. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a été condamné par les autorités libanaises, italiennes et par l'ONU. Le front froid présent aujourd'hui se décale en ce moment vers l'est du pays et durant la nuit, le ciel va s'ouvrir progressivement. Demain, le temps sera bien ensoleillé, sauf quelques résidus nuageux le long des Préalpes et des Alpes. La journée promet d'être agréable avec des températures maximales atteignant 20 degrés sur le plateau et 22 en Valais. Dimanche, les températures retrouveront des niveaux estivaux entre 24 et 26 degrés au maximum.
Envie d'écouter la radio au sommet des montagnes ou dans la cohue des grandes villes, dans une qualité de réception inégalée? Qu'attendez-vous pour passer au numérique? La radio numérique DAB+ offre une réception parfaite et en continu où que vous soyez en Suisse romande et propose de nombreuses autres fonctionnalités pour un confort d'écoute exceptionnel. Réglage automatique des programmes radio et de l'heure, affichage des titres de chansons diffusées et du nom de l'artiste. Tentez votre chance sur dab.rsr.ch, vous gagnerez peut-être l'une des radios DAB+ mises en jeu.
Drôle d'histoire avec Fémina.
Drôle d'histoire, Karine Delphini.
Bonsoir. Ici, on parlait d'amour. Ne vous faites pas d'illusions, on va plutôt évoquer le mal d'amour, le manque d'amour, l'amour absent. D'ailleurs, finalement, ça n'a rien à voir avec l'amour. Rendez-vous manqué, mauvaise rencontre. On commencera par une nouvelle d'une auteure suisse. Et puis, suivront d'autres récits, plutôt sous la forme de contes, qui ne finissent en tout cas pas par « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mathieu Ramsauer, lui, est au rendez-vous en régie. Et on va démarrer en chanson.
J'ai trop bu, encore une nuit perdue. Je suis restée à t'attendre en descendant la pente. Toute seule au comptoir, dans ce bar où l'on s'est aimé. Quand je parle de toi, on ne m'écoute pas. Maintenant, je voudrais pleurer tout seul. ce mortel été. J'attends l'orage sans bouger, que mon cœur se fasse dévorer. Je veux des nuages noirs dans le ciel de l'été. Reviens, reviens me voir, car le vin de ma manger. Je n'ai plus rien à voir, sans toi je suis brûlée. Je te jure, j'arrête de boire, mais reviens encore bébé. Dernier en dernier verre, quand ça tangue sévère, je m'endors avec ton jean à l'autre bout de la ville. Je ferai n'importe quoi si tu ne veux plus de moi. Je pourrais me saouler toute l'éternité, je pourrais me noyer sous la pluie de l'été. Je compte les heures sans parler, qu'un orage vienne me ranimer. Les histoires, je sais que je t'en ai fait baver. Je veux des nuages noirs dans le ciel de l'été. Reviens, reviens me voir, car le vin de ma manger. Je n'ai plus rien à voir, sans toi je suis brûlée.
L'été noir par Luce. Le premier livre que nous ouvrons ce soir est celui de Catherine Gaillard-Sarron aux éditions Plaisir de lire. Des taureaux et des femmes, la nouvelle a pour titre La Lisette. Il l'observait depuis un moment et décidément, il trouvait qu'elle ressemblait de plus en plus à la grisette, la Lisette. Assis sur la vieille chaise à bascule, la pipe serrée entre ses dents jaunies, il se balançait au rythme de ses pensées. Les seules indications de sa présence étant le couinement caractéristique que faisait la chaise et la fumée âcre qui s'élevait au-dessus de lui. Du coin d'ombre où il s'était retiré, il la regardait évoluer dans la cuisine. Elle se déplaçait lentement, pesamment, sans grâce ni légèreté, son pas traînant, raclant de ses sabots de bois les pierres rugueuses qui faisaient office de carrelage à la ferme. Elle allait tranquillement de l'évier à l'armoire, occupée à des tâches dont tu ne voyais pas l'utilité. Il pensa qu'elle ne faisait pas grand-chose, la Lisette, dans cette ferme qu'il avait, lui, le vieux, comme elle disait, presque bâti de ses mains. Une fois de plus, elle remonta le bas de son tablier pour s'y essuyer les mains dégoulinantes de l'eau de vaisselle. Elle se cambra légèrement, porta les deux mains sur ses reins qu'elle massa doucement. Sur son visage large et lunaire, une grimace apparut. Oui, il savait qu'elle avait mal au dos. Mais jamais au monde il ne l'aurait plainte. S'il l'avait fait, elle aurait certainement encore moins travaillé. Une femme qui se plaint, c'est une chose. Mais une femme que l'on plaint, c'est ingérable. Il savait toutes ces choses, le vieux. Il les avait apprises au fil du temps, en observant les bêtes, les siennes et les autres. La Lisette, pour lui, c'était comme les bêtes. Elle était faite pour la corvée, qu'il disait. Et elle connaissait sa place tout comme elle. Oh, il y avait veillé, faut dire. La Lisette, en fait, c'est lui qui l'avait formée. Il en était fier. Et elle, pourtant, ne l'avait jamais remerciée. C'était une ingrate, la Lisette, pensait-il. Elle n'acceptait pas son destin. Elle se voyait autrement. Elle disait qu'elle aurait pu être autre chose avec un autre ou ailleurs. Allez, allez, baliverne. La Lisette, comme la Garisette et les autres, étaient toutes faites pour le labeur et l'abattoir. La pensée était venue toute seule, naturellement, sans qu'il puisse la retenir, mais elle le gêna tout de même un peu. Enfin, il pensa aussitôt, pour soulager sa conscience et minimiser cette monstrueuse idée, on y passait tous de toute façon, non ? Et pourtant, ces bêtes, c'était quelque chose. Ah, ces vaches, comme il les aimait. Particulièrement la Grisette, qui venait toujours frotter sa grosse tête sur son épaule. Et instantanément, il vit briller dans son esprit le regard marron et profond de la Grisette, si placide. Il ne put s'empêcher à nouveau de regarder vers la Lisette. Elle aussi, elle avait ce regard doux et bovin si naturel. Sous l'œil critique du vieux, Lisette s'activait, abeille laborieuse qui œuvrait du matin au soir sans jamais recevoir un remerciement. Malgré son embonpoint, il émanait d'elle une certaine présence. Oh, elle avait été belle, son visage lisse, parsemé de taches de rousseur, encore une chose qui pour le vieux accentuait sa ressemblance avec la Grisette, en portait encore les traces. Des cheveux roux bruns, un peu filasse à présent, et qu'elle nouait en tresse, retombait de chaque côté de sa poitrine qu'elle avait d'une générosité extrême. Le vieux, c'est ce qu'il aimait le plus chez la Lisette. Ses seins, si lourds, si blancs, si doux. Ah oui, comme il l'aimait et enfouir sa tête quand la Lisette ne le repoussait pas trop fort. C'était bien comme la Grisette va à une sacrée laitière, ma foi. Elle avait nourri leurs 12 moutards. C'était devenu de sacré gaillard, pardieu. Ah oui, il en était fier. Comme s'il y était pour quelque chose, le vieux. Lisette prit soudain appui sur le bord de l'évier, se cambra une nouvelle fois, et l'on entendit alors clairement le craquement sinistre qui se répercuta dans la cuisine silencieuse. Le vieux se taisait. Seules les mouches agaçantes vrombissaient dans l'air saturé des odeurs de l'étable et de la soupe qui cuisait. On entendit s'échapper un soupir de la gorge de Lisette et le raclement d'une chaise qu'on tirait. Fatiguée, elle s'était assise à la table de la cuisine un moment, plus pour soulager son dos que par fainéantise. Et dans son coin, dissimulé derrière les nuages de sa pipe, le vieux, qui l'observait toujours, la rudoya alors pour sa paresse. « Allez, la Lisette, allez hop, au boulot. J'ai pas les moyens de t'entretenir pour rien, moi, hein. » Conditionné par tant d'années de labeur et conscient de son impuissance, surtout de l'inutilité à vouloir contrer le vieux, Lisette se releva péniblement et elle se remit au travail. C'est à ce moment-là que le vieux eut son idée de génie, quand il s'était rendu compte qu'il n'entendait plus la Lisette parce qu'elle s'était assise, quand il avait entendu le gros soupir et vu sa gorge se soulever d'épuisement, quand son regard, enfin, se fut accroché au cou de la Lisette. Le vieux ne connaissait pas la compassion, ni même l'affection, mais il connaissait ses bêtes, et il éprouvait pour elles quelque chose qui y ressemblait. Tout heureux soudain de l'idée qu'il venait d'avoir, il se leva de son coin, éteignit sa pipe dans la cheminée, prit son bâton et son sac et s'enfuit à la ville. « À ce soir, la Lisette, je m'en vais t'acheter une surprise !» Des larmes silencieuses d'abord coulèrent de ses beaux yeux marrons. Puis ses épaules se soulevèrent et sa poitrine généreuse se mit à monter et à descendre comme un soufflet de forge. Et bientôt ce fut un déferlement de sanglots qui s'échappèrent de sa gorge, se répandirent sur la table. Et elle se disait pour elle-même, « Oh, le vieux, oh, ça c'est gentil, une surprise. Oh, je t'aime bien quand même, tu sais. Oui, ça ira mieux, oui. » On fera des efforts, et ça ira. remontant à la ferme en fin de journée, le vieux jubilait. Mais quelle bonne idée il avait eue là. Il n'en revenait pas de sa grande intelligence, de sa perspicacité et de sa générosité. Oh, ben voilà quelque chose qui plairait à la Lisette. C'est vrai qu'il lui fallait bien reconnaître que jamais, en 30 ans de vie commune, il ne lui avait offert un cadeau, pas même un simple bouquet de fleurs. Elle en avait plein le jardin qui disait. Alors, à quoi bon dépenser des sous pour des choses qu'on n'avait qu'à se baisser pour ramasser? Il repensait à sa surprise, se demandait s'il avait bien choisi le bon support, la bonne couleur ou la bonne grosseur. Il ne fallait pas qu'il soit trop gros, mais pas trop petit non plus. Il fallait qu'on puisse le voir, et puis surtout... Enfin, il était content. Il se disait qu'il avait fait le bon choix, et se réjouissait déjà du plaisir qu'il en retirerait. Il imaginait l'effet que cela ferait sur la Lisette, sur sa peau blanche et laiteuse, quand elle se déplacerait, bougerait, dormirait. Oh, qu'il était impatient. Il pensa que jamais il ne l'avait été autant de sa vie. Enfin, la ferme fut en vue. Excité comme un gamin, le vieux pressa le pas et courut au devant de la Lisette qui sarclait le jardin. Hé, la Lisette, viens donc voir à la cuisine. Allez, viens voir ce que je t'ai rapporté. Pose ta bêche, va. Viens t'en admirer la belle surprise que j'ai fait faire sur mesure rien que pour toi. La Lisette se releva péniblement, frotta ses mains endolories l'une contre l'autre en observant le vieux. Elle trouva qu'il avait un drôle d'air. Il riait tout seul, on aurait dit un gamin qui va faire un mauvais coup. Une fois dans la cuisine, il la fit asseoir en face de lui et avec un cérémonial inhabituel de sa part, lui offrit solennellement le paquet qu'il avait fait faire exprès pour elle. Alors, Lisette était émue. C'était la première fois que le vieux lui offrait quelque chose. Elle n'avait pas eu la vie facile et celle d'aujourd'hui ne l'était pas plus. Vivre avec le vieux lui semblait toujours plus pénible. Et pourtant, quand même, là, il lui offrait un cadeau, et ça la remuait, vraiment. Lisette était sensible, mais le vieux n'aimait pas, alors elle le cachait. Elle pensa que le vieux avait peut-être changé, qu'il voulait ainsi lui manifester un petit peu plus d'attention, d'affection même. Alors du coup, ça la remua tant qu'elle se mit à pleurer. Elle pensa qu'elle le jugeait mal, que le temps avait effacé les sentiments d'autrefois, qu'elle aussi, après tout, n'avait plus vraiment cherché à faire d'efforts. Une vague de nostalgie, de culpabilité l'envahit soudain. Et Lisette, en tremblant, avec précaution, comme si elle craignait que quelque chose ne lui saute au visage, leva le couvercle. Elle eut un haut le cœur. Son visage devint livide et ses mains se mirent à trembler épouvantablement. Elle lança un regard bouleversé au vieux qui riait à présent sans retenue. « Tu vois la Lisette, moi aussi tu vois je t'en veux pas, je t'aime, oui je t'aime, en tout cas autant que mes bêtes. Tu vois bien, hein, puisque je t'offre la même chose qu'à elle. J'en suis sûre, ça ira mieux à présent. Avec ça, je saurai tout de suite si tu travailles ou pas, je saurai tout de suite où tu es. Allez vas-y, essaye, vas-y. » Mais Lisette... mortifiée, avait refermé d'un coup sec le couvercle sur l'abominable, sur l'ignoble cadeau. Humiliée, blessée, elle se leva d'un seul coup en renversant sa chaise et s'enfuit en courant, laissant derrière elle le vieux qui riait toujours. Resté à la table, stupéfait, abasourdi, déçu par la réaction de la Lisette, le vieux n'avait même pas cherché à la rattraper. Il ouvrit le couvercle de la boîte restée sur la table et s'empara du bijou. Il le leva dans la lumière déclinante du jour pour mieux l'admirer. Et une fois de plus estima que c'était une belle réussite. Ah ça oui. Tendu sur un licou de cuir brun et or, une grosse cloche en fonte spécialement faite sur mesure brillait dans les rayons du soleil couchant. Et gravé dessus, on pouvait lire... La Lisette.
Thank you. ma vache a grossi. Ma vache a grossi. Et rentre dans le pré pour la faire passer. Il faut la pousser. Ma vache a grossi. Ma vache a grossi. Mes poulons grosses. Mes poulons grosses. Elles sont toutes éplumées. Quand elles sont toutes gonflées, les œufs sont tous écrasés par toute leur obésité. Mes poulons grosses. Mes poulons grosses. Aussi. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Coincé dans sa niche. C'est bête pour la caniche. Mon chien a grossi. Mon chien a grossi. Ma fille a grossi. Elle peut plus faire ses devoirs. Oh, on dirait bavard. Elle tient plus son stylo. Tellement ses doigts sont gros. Ma fille a grossi. Ma fille a grossi. Ma femme a grossi. Audrey, maman.
Complètement déjanté, les VRP, ma vache a grossi. Ce soir, on parle de faibles amours. On va continuer l'émission avec des contes sortis du livre « Les perles et les cochons » de Jean Dutour, publié aux éditions Plomb. Alors voyons cette version de « La belle et la bête ». La bête menait la vie la plus agréable du monde dans son beau château qui avait 18 tours, des fenêtres à meneaux, des sculptures de Jean Goujon, 59 pièces magnifiquement meublées et des douves profondes où nageaient des carpes. Une nuée de domestiques s'occupait de la cuisine et du ménage, car en ces temps fabuleux, les employés de maison se contentaient de salaires modiques. En réalité, la bête était le surnom du vicomte Tancrède de la Minaudière. Il avait été autrefois un aimable jeune homme de province, comme on en voit tant. Et puis une vieille fée, qui lui voulait du mal, on ne sait trop pourquoi, l'avait transformé en monstre. Un matin, Tancrède se réveilla couvert de longs poils. Son nez était devenu une espèce de mufle noirâtre. Des canines pointues retroussaient ses babines, ses ongles ressemblaient à des griffes. Seuls ses yeux bleus n'avaient pas changé. Ils avaient toujours le même regard espiègle. Oh, les fées peuvent se tromper comme n'importe qui, hein. La méchante fée, croyant bien ennuyer le pauvre Tancrède, lui donna au contraire le bonheur. D'abord, son père et sa mère, qui étaient horriblement snobs et conventionnels, pensèrent qu'on ne les inviterait plus nulle part.
Cela les désespéra tant qu'ils se mirent au lit, eurent une jaunisse et moururent tous deux à 15 jours d'intervalle. Les meilleures familles du Poitou vinrent à leur enterrement. Ils en éprouvèrent certainement un peu de joie posthume. Au XVIe siècle, on était très poli. Aucun des invités ne parut remarquer l'aspect singulier de Tancrède. Les marquis Poitevin et leurs marquises, les barons Poitevin et leurs baronnes l'embrassèrent comme à l'accoutumée, lui firent leurs condoléances, mangèrent d'excellent appétit le déjeuner des funérailles et repartirent pour leur manoir sans avoir fait la moindre gaffe. Tancrède, qui était bon fils, pleura sa vieille sotte de mère et son vieil imbécile de père, et puis il finit par penser à autre chose. Ah, cette double mort le rendit maître d'une jolie fortune qu'il employa à des soirées dansantes, des fêtes, des pique-niques, des chasses à cours et autres joyeusetés. Tout monstre qu'il fût, il était fort soigné. Poils luisants, les griffes manucurées, le groin souriant, sentant bon l'eau de toilette et vêtu comme un prince. Ce n'était que pourpoint de soie, boutons de diamants, bottes en cuir souple, chapeau à plumes, bagues à tous les doigts. Il achetait les plus beaux chevaux de France, et toujours le mot pour rire, car son aventure n'avait en rien modifié son caractère insouciant. Bref, le plus charmant compagnon qu'on pût rêver. Toutes les dames du Poitou étaient folles de lui. On ne comptait plus ses succès. Elles se battaient quasiment pour le consoler d'un sortilège qui, croyait-elle, l'accablait. Ah, quelle chance! Mais oui, quelle chance j'ai eue d'être métamorphosée, pensait Tancrède avec satisfaction chaque soir en se couchant. Merci, bonne fée sagace et originale, qui conçut l'idée audacieuse de me couvrir de poils et de me donner un vilain museau. Avant votre coup de baguette, mes camarades me détestaient parce que j'étais trop joli garçon. Les femmes se moquaient de moi, sûrement pour la même raison. Mais à présent, on me plaint, donc on m'aime, on fait 40 lieues pour assister à mes dîners, on me passe tous mes caprices. Je suis un peu hussard, et les femmes trouvent cela charmant, alors qu'elles m'auraient giflé du temps que j'étais blond. La méchante fée verdissait de rage en entendant ces propos. Elle cherchait avec acharnement un moyen de rendre à Tancrède sa forme première. Il faudrait qu'il tombe amoureux, se dit-elle avec la logique des fées qui est assez particulière. Mais comment Tancrède eût-il pu tomber amoureux? Les nobles dames, les servantes, les bourgeoises les plus vertueuses, les gardeuses d'oie les plus malpropres, ne rêvaient que de lui. Un cœur ainsi pourchassé n'est guère vulnérable. Hélas, nul cœur n'est à l'abri d'un sentiment tendre. Celui de Tancrède, un jour, s'enflamma pour une certaine demoiselle de Ponto Combo, nièce du vieux vidame des Épinettes, qu'il avait amené avec lui à l'une des célèbres fêtes de la Minaudière, non sans arrière-pensée peut-être. C'était une jeune personne assez ordinaire, orpheline, sans le sou et de ce fait difficile à marier. Elle se prénommait Isabelle. On l'appelait Belle ou La Belle. Lorsque La Belle vit Tancrède, elle ne manqua pas de ressentir ce mélange délicieux d'horreur, d'émoi et d'attirance qu'il inspirait à toutes les femmes. Et il n'eut tenu qu'à lui d'ajouter cette créature à la liste de ses consolatrices. Mais il fit une bêtise impardonnable. Il la respecta. Après ce fâcheux début, les événements suivirent un cours inexorable. Isabelle en voulut à Tancrède de l'avoir respectée. Et celui-ci s'enferra en la couvrant de cadeaux. Boucles d'oreilles ayant appartenu à sa mère, clip en diamant commandé en secret à un joaillier parisien et représentant deux baies entrelacées. Puis encore des bouquets de fleurs vastes comme des queues de paon. Il lui offrit jusqu'à son cheval blanc favori. La donzelle remerciait du bout des lèvres, ne manifestait aucune gratitude pour ses présents magnifiques. Et enfin, une idée funeste germa dans la cervelle du malheureux Tancrède que la passion, décidément, avait rendu idiot. Il se dit que lui, monstre poilu et griffu, n'avait pas le droit de prétendre à l'amour d'un ange descendu des cieux tel qu'Isabelle, que c'eût été une mauvaise action de demander sa main au vidame des Épinettes, qui n'attendait que cela, qu'il devait donc se sacrifier. Le mot de sacrifice n'eut pas plutôt éclos dans la tête de Tancrède que la méchante fée accourut sur son balai et le toucha de sa baguette magique. Instantanément, il perdit tous ses poils, son groin redevint un nez, il eut des cheveux blonds et la peau blanche. Le pauvre niais en éprouva une commotion de joie si violente qu'il courut comme un fou dans les couloirs de son castel, réveilla ses 30 invités qui jaillirent de leur lit à baldaquin en se frottant les yeux, et il convia la compagnie à une beuverie énorme. Rien ne s'opposait plus à son mariage avec Isabelle. Le vidame des Épinettes donna son consentement avant même qu'on l'en priât et écrasa une larme hypocrite sur sa moustache grise. Les noces durèrent 8 jours. Isabelle, qui détestait les blonds, fut maussade comme une porte de prison. Lorsqu'ils furent mariés, elle n'eut rien de plus pressé que de tromper Tancrède avec tous les gentilshommes et une bonne partie des valets de ferme de la province du Poitou. Elle lui donna 12 enfants, dont pas un n'était blond et n'avait les yeux bleus. Et comme elle n'avait ni esprit, ni gaieté, ni grâce, ni faste, mais au contraire qu'elle était bête comme une huître et avare comme un pou, personne ne vint plus au château de la Minaudière. Les carpes crevèrent d'ennui dans les douves, et Tancrède vécut très vieux. Il devint si abruti qu'il ne regrettait même plus le temps béni où il était un monstre.
Marquette de nuit, j'ai rencontré un maudit, rejeté là dans son corps, comme un enfant de la mort. On est allé boire un verre, j'avais reconnu un frère, j'étais plus seul sur la terre, avec l'affolant mystère.
Après 4 ou 5 whisky, les phares entrés dans Paris,
accompagnaient
la dérive de splendeur toujours plus vive.
On n'avait rien à se dire,
on crevait presque de vivre en chantant notre malheur. On se connaissait par cœur.
Ses yeux étaient d'or fondu, coulant dans mes yeux perdus.
On a vu 36 ans d'elle, quand on s'est roulé une pelle. On a fini à l'hôtel du côté de Saint-Marcel.
On ne sait jamais revu.
C'était une soirée de plus.
Oh, super marquette de nuit, j'ai rencontré un maudit, projeté là dans son corps, comme un enfant de la mort.
If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by,
just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, walk on.
Walk on by Dionne Warwick sur la première. Ce soir, nos drôles d'histoires sont consacrées aux contes qui parlent d'histoires d'amour qui font naufrage. Et le conte des saucisses de Jean Dutour en fait partie.
Drôle d'histoire.
Le pauvre bûcheron et la pauvre bûcheronne, dans leur cabane forestière, regardaient tristement leur assiette vide. Ils avaient mangé en tout et pour tout à leur dîner un croûton de pain rassis. Ils avaient faim, ils avaient froid, la vie leur pesait. La pauvre bûcheronne pleurait de découragement. Oh, mais quand donc cette mouise finira-t-elle ? Jamais, jamais. Nous vivons comme des bêtes. Les bêtes ne supporteraient pas ce que nous endurons. Imagine, reprit l'homme, qu'une bonne fée nous apparaisse et nous transforme en milliardaires. Tiens, remarqua la bûcheronne. Il y avait longtemps que t'avais pas dit d'ânerie. Or, si étonnant que cela semble, une fée passait justement à proximité et entendit ses propos. Elle frappa à la porte de la cabane. La bûcheronne ouvrit. La fée avait pris la forme d'une jeune femme blonde vêtue d'un tailleur de tweed pied de poule. Sa baguette magique se camouflait en parapluie. « Si c'est pour nous vendre quelque chose, vous pouvez vous adresser ailleurs, on n'a pas d'argent. »« Voyons, Paulette, on ne raconte pas ces choses-là aux étrangers. Peut-être que madame est tout simplement une promeneuse égarée dans les bois. »« Non, » dit la fée avec un beau sourire, « je suis une fée. Votre détresse me touche. Je veux vous faire du bien. Alors faites 3 souhaits, ils seront accomplis. »« Une fée ?» s'écria la bûcheronne. « Ernest, pince-moi, j'ai des hallucinations. Voilà ce que c'est de ne pas manger à sa suffisance. »« Mais non, ma bonne femme, je suis vraiment une fée. Faites un souhait, vous verrez bien. »« Oh, ma foi !» dit la bûcheronne en ton amer. « Puisque vous êtes si maligne, mettez donc une paire de saucisses dans mon assiette. » Et à ces mots, un coup de cymbale retentit et une paire de saucisses de Francfort apparut dans l'assiette de la bûcheronne et la fée devint invisible. « Nom de Dieu !» s'écria le bûcheron. « Ça alors ?» dit la bûcheronne saisie. « Madame la fée !» gémit le bûcheron. « Revenez, ce souhait-là ne comptait pas, c'était seulement pour voir. » Peine perdue. La
visiteuse était bel et bien partie. Le bûcheron entra dans une violente colère. « Mais espèce d'andouille !» dit-il à sa femme. « Faut toujours que tu te crois plus intelligente que les autres, hein ? Avec nos trois souhaits, nous pouvions demander la santé, la jeunesse et la fortune. Eh ben voilà, voilà, t'es bien avancée maintenant avec ta paire de saucisses. Je voudrais qu'elle te saute au nez !» Un deuxième coup de cymbale retentit. Et les deux saucisses sautèrent au nez de la bûcheronne, où elles se fixèrent. La malheureuse, qui n'était déjà pas fort jolie, devint carrément monstrueuse, avec ses deux gros doigts rougeâtres et mous qui lui pendaient de chaque côté des narines. Ce fut son tour de quereller le bûcheron. Elle fit même une crise de nerfs. On tira sur les saucisses pour les arracher, mais elles tenaient bien. On essaya de les couper avec un couteau. Bûcheronne poussa des cris affreux parce que les saucisses étaient pour ainsi dire greffées à sa chair. « Ah ouais, tu peux être fière de toi » dit-elle à son mari. « Mais je veux pas rester avec ces deux machins pendus à mon nez. »« Minute !» dit le bûcheron qui s'était calmé. « Nous avons déjà gâché deux souhaits. Alors ne gâchons pas le troisième, écoute. La jeunesse, la santé, on s'en fout. Hein. » Nous avons été jeunes et bien portants et regarde où ça nous a menés. Je vais demander la fortune. Nous serons milliardaires. Et après quoi, je t'emmène chez un chirurgien esthétique. Il te coupe les saucisses et il te fabrique un joli petit nez comme t'en as jamais eu. Il fallut quand même 2 heures pour convaincre la bûcheronne. Enfin, le bûcheron prononça ces paroles fatidiques. « Je veux la richesse !» Et en même temps que résonna le troisième coup de cymbale, la cabane du bûcheron se métamorphosa en un château somptueux, peuplé de domestiques et rempli de meubles anciens. Le bûcheron et la bûcheronne étaient assis devant une table couverte de victuailles dans une salle à manger seigneuriale. Le bûcheron disait avec le plus grand naturel « J'ai 6 comptes en banque de 6 milliards chacun, 2 dans des banques suisses, 2 dans des banques américaines et 2 dans des banques françaises. Majordone, redonnez-moi donc un peu de foie gras et versez-moi un verre de chambertin, s'il vous plaît. » Le lendemain, le bûcheron et la bûcheronne se firent conduire à Paris, dans l'une de leurs Rolls. Ils allèrent chez le célèbre docteur Suture, qui promit à Madame la bûcheronne de lui fabriquer un minois délicieux. En effet, il l'anesthésia et coupa les deux saucisses d'un coup de bistouri des plus adroits. Hélas, le soir même, les deux saucisses avaient repoussé, et la bûcheronne était aussi ridicule qu'auparavant. Le couple comprit alors qu'une fée n'a qu'une parole et qu'un souhait est un souhait. Le bûcheron, qui était philosophe, dit « Ma bonne amie, crois-moi, il vaut mieux avoir 2 saucisses pendues au nez et être milliardaire que d'avoir le nez intact et mourir de faim. Bon, c'est vrai, ça te gênera pour te moucher, mais on n'a rien sans rien. Avec tout l'argent que nous avons, personne n'osera jamais se moquer de toi. Et puis de toute façon, même sans saucisses, tu serais trop moche pour faire du cinéma. » La fin du conte est très surprenante. La bûcheronne prit son mari en aversion et lui fit une vie impossible. Et comme le bûcheron était cardiaque, eh ben, il en mourut au bout de 6 mois. La bûcheronne, devenue veuve, fut bien obligée de s'accommoder de ses saucisses. Et comme c'était un beau parti, elle ne manqua pas de prétendants. Mais en femme avisée, elle ne se remaria pas. Ainsi coula-t-elle des jours heureux jusqu'à un âge avancé, au milieu d'une foule de messieurs empressés à lui plaire et qu'elle traitait bien plus mal que si elle eût été une beauté.
Tout a commencé par une larme qui a rejoint d'autres larmes. Un ruisseau emporte à leur âme mêlée au sang des innocents. Elles s'en allèrent ainsi par les rivières pour se lancer sur les mers. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a
a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe. Elle rencontrait au gré des vagues d'autres âmes perdues au large. Elles s'abandonnèrent au voyage et se perdirent dans un nuage. Elles s'envolèrent ainsi vers d'autres cieux, vers des pays merveilleux. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe. Au-dessus du monde et du bruit, elles retrouvèrent goût à la vie. Poussées par le vent et l'ennui, elles retombèrent un jour de pluie dans un ruisseau ou peut-être une rivière qui s'en allait vers la mer. Fatalitas, quoi que l'on fasse, il y a toujours la menace de n'être nulle part à sa place. Fatalitas, fatalitas, il faut bien voir le monde en face et profiter du jour qui passe.
Fatalitas, Hubert Mounier. Et on va poursuivre avec nos étranges contes qui parlent plus ou moins d'amour, enfin d'amour assez triste quand même, de Jean Dutour, extrait de son livre « Les perles et les cochons ». Voici le pochoir fatal. Miss Barbara Petticat était une jeune fille très jolie et très sage. Elle avait de grands yeux bleus, de beaux cheveux roux. Rien de plus coquet que son chignon, son chapeau, sa taille fine, son petit pied cambré dans sa bottine à boutons. Elle vivait dans le quartier de Putney avec son papa, sa maman, ses deux sœurs, le chat Jérémy, divers pots de fleurs et des sentences que Monsieur Petticat peignait au pochoir sur des cartons. Ainsi était-elle pleine de bons principes. Elle savait qu'il vaut mieux tenir que courir, que petit à petit l'oiseau fait son nid, que tout ce qui brille n'est pas or, qu'on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fissent, et que rien n'est plus doux que le home, qu'il faut avoir une âme saine dans un corps sain, et sont autre chose aussi utile pour se conduire dans l'existence. Toute la semaine, Barbara donnait des leçons de piano à des bambins. Non seulement c'était une excellente maîtresse de piano, mais encore, les parents de ses élèves se félicitaient de l'influence qu'elle avait sur les enfants. En effet, au cours de ses leçons, elle ne manquait jamais de tenir de petits discours moraux dont il ressortait que le mieux est l'ennemi du bien, que la paresse est la mère de tous les vices, qu'à force de forger, on devient forgeron, qu'on n'est pas sur terre pour s'amuser, que qui ne risque rien n'a rien, que la critique est aisée mais l'art difficile, et que qui veut aller loin ménage sa monture. Or, il advint qu'un soir d'automne, comme elle rentrait à Putney, un jeune homme bien mis la suivit. Elle en fut extrêmement contrariée et en conçut même quelque effroi. En 1902, un jeune homme était encore une chose considérable, surtout à Londres. Celui-là offrait tous les symptômes de la timidité britannique. Mais Barbara, nourrie comme elle était de principes peints au pochoir, vit le loup dans la bergerie. Songe avec angoisse que quand le coq est lâché, il faut enfermer les poules. Se dit,
Je te connais, beau masque. » Et fit mentalement le compte des jeunes filles déshonorées qui peuplent la littérature anglaise de second ordre. Le manège du jeune homme dura plusieurs semaines. Il était évident qu'il aimait à la folie l'adorable Miss Petticat, qui n'osait pas le lui confier. Celle-ci était à croquer avec son tour de cou en fourrure, sa grande jupe à volant, son petit pas gracieux et décidé, son visage d'anglaise aussi frais à cause de l'humidité que le célèbre gazon anglais qui fait l'admiration et l'envie du monde civilisé. Qui sait ce qui se passe dans le cœur des femmes? Si la première fois qu'il l'aperçut, le jeune homme avait abordé Miss Petticat et lui avait déclaré « Permettez-moi, mademoiselle, de vous accompagner un peu. Je suis un honnête garçon. Mon papa est agent de change à la City et je n'ai jamais vu de ma vie une jeune fille aussi sympathique que vous. » Oui, s'il avait déclaré quelque chose de ce genre, il est probable que Miss Petticat, dans son fort intérieur, n'en eût point été fâchée. Elle aurait débité quelques sages maximes pour la forme et puis une tendre idylle aurait éclos qui se serait fortifiée au cours des semaines pour aboutir à une présentation en règle à Mr. and Mrs. Petticat au cours d'un thé accompagné de buns, de muffins, de scones, de crumpets. Hélas, quand le jeune homme débordant d'amour comme un tonneau rempli par la pluie se décida enfin, Barbara ne pouvait plus le souffrir. Il était dans un tel état d'émotion, son cœur battait si fort, son regard semblait si égaré, et ses mains tremblaient tant qu'il eût épouvanté n'importe qui. À plus forte raison, Barbara, qui s'écria avec indignation, « Passez votre chemin, monsieur. Non, je ne vous connais pas. Non, le plus bel ornement d'une jeune fille est sa pudeur. Vous devriez avoir honte. Je n'avais pas mérité cette humiliation. L'honneur est plus précieux que la vie. Oui, vous avez un beau costume, mais l'habit ne fait pas le moine. » « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit un individu trapu qui passait par là. « Si ce type-là vous embête, madame, dites-le au vieux Jack. Ça sera réglé en 5 secs. » C'en était trop pour le jeune homme timide qui s'enfuit en pleine déroute, dévoré de honte, d'amour, d'horreur de soi. « Oh, merci, monsieur, de m'avoir délivré de cet importun, » dit Barbara à son sauveteur avec un sourire ensorcelant. « En vérité, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. » Le sauveteur avait une figure atroce. Front bas, sourcils touffus, yeux fuyants, menton en galoche et surtout d'énormes mains aux doigts carrés couverts de poils roux sur les phalanges, pendant au bout de bras interminables comme ceux d'un singe. Barbara détailla tout cela à la lueur d'un réverbère et n'en fut nullement émue. Car elle savait qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'un homme n'a pas besoin d'être beau. « Pour qu'on vous embête plus, » dit le monstre, qui visiblement aimait bien parler de lui à la troisième personne, « le vieux Jack va vous faire un bout de conduite, hein, on va traverser Waterloo Bridge ensemble jusqu'à l'omnibus. » La Tamise est très large, Waterloo Bridge en 1902 n'était pas beaucoup éclairé. Eh, c'est pas prudent pour une jeune fille de se balader toute seule dans ces quartiers la nuit, dit le vieux Jack. Mais le vieux Jack a un petit instrument pour décourager les sales types. Déboutonna son raspet, tira de sa ceinture un couteau de cuisine long de 15 pouces, qui paraissait terriblement affûté et pointu. Il passa son doigt avec légèreté sur le fil, sa bouche était tordue par un rictus épouvantable. « Mauvaise tête, mais bon cœur, » dit Barbara avec un sourire attendri. Oui, cet effroyable personnage lui inspirait une confiance totale. Il était à ses yeux comme le symbole, l'incarnation de toutes les sentences peintes au pochoir par Miss Petticat. « Si jamais elle tombait amoureuse un jour, » songea-t-elle, « ce serait d'un homme comme le vieux Jack. » Elle éprouvait tant de plaisir à causer avec lui de l'argent qui ne fait pas le bonheur, de la pauvreté qui n'est pas vice, des pères avares qui ont des fils prodigues, de la langue qu'il faut tourner cette fois dans sa bouche et de divers autres sujets tout aussi intéressants, qu'elle s'aperçut à peine le pont traversé que son compagnon, au lieu de la conduire à l'arrêt de l'omnibus, l'entraînait insidieusement sur le quai de la Tamise, qui était désert. Il faisait noir comme dans un four. « Bah !» pensa-t-elle dans les rares intervalles de son babillage. « Une promenade au clair de lune n'a jamais fait de mal à personne. » Elle mourut en proférant « Il n'est pire haut que l'eau qui dort. » En effet, le vieux Jack, qui n'était autre que Jack l'éventreur, lui avait plongé son couteau dans l'estomac et l'avait ouvert de bas en haut. Ensuite de quoi il retira les intestins de Miss Petticat et se les enroula autour de la taille comme une ceinture de sauvetage en marmonnant. Décidément, on ne sait ni qui vit ni qui meurt.
Gainsbourg, pour conclure cette émission, on ferme nos livres.
Drôle d'histoire avec Fémina.
Cette émission s'est faite grâce aux collaborations de Mathieu Ramsauer à la réalisation et de Jean-Baptiste Romains pour le choix des chansons. Juste après les informations, la soirée continue avec la ligne de cœur 021 653 70 70 en compagnie d'Alain Maillard. Belle fin de soirée sur la première. Il est 22h.